Alors ce soir, on va continuer. Je vais profiter de notre rencontre ce soir pour essayer de penser un peu deux conférences que je vais faire, l'une à Bruxelles en début juin, l'autre à Paris mi-juin. À Bruxelles, c'est sur la haine. Et à Paris, c'est sur l'action du corps. Et effectivement, il y a un lien entre les deux, dont je vais essayer de parler. Alors, ce qui est toujours important, je le répète à nouveau, ce qui est toujours important de partir, c'est du fait que ce que l'expérience psychanalytique permet d'avancer, c'est à partir de ce qu'on appelle le discours analytique, c'est que Lacan l'écrit, donc c'est pas quelque chose dont on peut dire c'est ça, non, c'est des lettres. Hein. J'appelle c'est le réel, c'est écrit avec des lettres. Donc, à partir du discours analytique, il est possible d'avancer un certain nombre de choses qui sont tout à fait peu pensables. Par exemple, que le père n'est pas le géniteur. Par exemple. Voilà. Je veux dire, le père n'est pas le géniteur, quoi qu'on dise. Vous voyez, tout le discours de la science sur la recherche du père, c'est problématique. Et puis que la mère, pour toujours, elle marque le petit homme. Et puis que, ben, il en résulte tout ce qu'on rencontre, c'est-à-dire des symptômes, la névrose. Voilà ce que permet d'avancer le discours analytique. Vous voyez qu'on est loin de tout ce qu'on raconte, bien sûr. Donc le problème, c'est pas de savoir qui est le père, qui n'est pas le père, etc. Pourquoi pas? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on se réfère au discours analytique, c'est-à-dire à quoi? Au fait que nous sommes fils du langage. C'est ça l'important. Et donc, à partir de là, je voudrais dire un peu quelque chose sur le fait que ce que permet d'avancer le discours analytique, c'est qu'il existe un discours, bien sûr, qui s'appelle, on va appeler analytique, qui met en place un certain type de lien social. C'est pas du tout le lien social tel qu'on en parle habituellement, et que ce discours analytique, il permet, dans la mesure où il interroge ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient, c'est très compliqué, c'est l'inconscient dont nous sommes sujets, si l'inconscient, il faut plutôt le considérer comme un météore, comme une étincelle, hein, que comme une automobile, hein. Quelque chose qui de l'un coup jaillit. Et donc, à partir de là, le discours analytique vise à une production, et on tombe sur tout ce qu'a raconté Marx, du côté de la plus-value. Alors Marx, c'est important au niveau de tout ce qu'il dit au niveau de la politique, au niveau du politique et de la politique, c'est pas ça l'important. C'est ce qu'il élabore du côté de ce qu'il va appeler la mer verte, la plus, en allemand, la plus-value. Et que Lacan, jeune lecteur de Marx, très tôt, mais qu'il va pouvoir, on va dire, coincer un peu dans ce qu'il aborde le discours analytique, ce que Lacan va appeler le plus de jouir, en sachant que le plus de jouir, dans la mesure où ça s'écrit PLU, ça peut être plus ou plus. Voilà le langage. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je dis en fait quand je parle. Voilà. Alors, je voudrais donc, je pars donc de la remarque suivante, c'est qu'il y a un savoir qui n'est pas celui qu'on va trouver avec la pensée, qui peut apparaître, et ce savoir renouvelle le savoir que l'on connaît déjà, et le savoir qu'on connaît, ben c'est en gros, d'une manière ou d'une autre, il est issu du discours scientifique habituel, qu'il s'élabore notamment à partir de Descartes, Et qui est la psychologie, c'est ça. Hein. La psychologie, c'est ça. La psychologie des profondeurs, c'est ça. C'est-à-dire que, ben, on sert de presque ce qu'on dit. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire surtout qu'il y en a un qui sait. On peut l'appeler Dieu. On peut l'appeler autrement. On peut l'appeler la nature, c'est pareil. On peut l'appeler le président de je ne sais pas quoi. On peut l'appeler le parti politique, c'est la même chose. Quelque part, il y en a un qui sait. Et celui qui sait, automatiquement, il nous est possible de savoir ce qu'il sait. Bon. Mais, d'emblée, là, en vous parlant, j'ai eu tout d'un coup un doute sur le fait que dire qu'il y en a un qui sait, c'est pas pareil de dire quelque part « ça sait ». Parce que si je dis qu'il y en a un qui sait, d'emblée, c'est Dieu, ou l'équivalent. Hein? Mais dire quelque part « ça sait », vous écrivez ça comme vous voulez, hein, ça pose les choses autrement parce que ça ne présentifie pas d'une présence qui détiendrait un savoir. Et la plupart des mythes qu'on connaît, hein, comme les dieux avaient un savoir qui leur a été dérobé, hein, comme ça. Hein. Et on a toujours vu ça finalement dans les mythes habituels, dans les connaissances habituelles, sauf qu'effectivement, le développement de la science, progressivement, et notamment, curieusement, ça apparaît, bien sûr, avec tout au début avec Galilée, hein, mais plus particulièrement avec ce qui va apparaître à la fin du 19e, au niveau des mathématiques, bien sûr, après la psychanalyse, au niveau des mathématiques, au niveau de la musique, au niveau d'autres champs, bon, c'est la théorie quantique, c'est une autre façon d'avoir un rapport avec le monde que quoi, ben, que finalement celui qu'on avait avant, qui n'est des Grecs, hein, il suffit de lire Aristote pour trouver à peu près tout. Donc pendant 25 siècles, on n'a pas évolué du tout, en fait. Même si on a pu connaître un certain nombre de technicités, de gadgets progressivement qui vont nous permettre de savoir un peu plus. C'est-à-dire que on s'est mis à observer avec des lunettes, ça commence comme ça avec Galilée qui cherche absolument des lunettes assez puissantes, et puis après il y aura le microscope, et puis après il y aura tout ça qui fait qu'on va aller chercher, par exemple au niveau des chromosomes, les ADN, etc. Tout ça c'est de l'observation. Donc c'est un certain type de savoir. L'inconscient n'a rien à voir avec ça, alors rien du tout. Et l'inconscient, le savoir inconscient, c'est un savoir qui vient renouveler la question du savoir. Chez l'être parlant, ou plutôt, comme le dit Lacan, pour bien marquer les choses, chez l'animal parlant. Hein? Nous sommes des animaux parlants. Bon. Alors, à partir de là, donc la première remarque, c'est donc de parler de savoir, c'était ça. Et comment est-ce qu'il est possible à partir de là de parler de la haine et de la question du corps que j'évoquais tout à l'heure. Alors parler de la haine, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que par exemple le discours dont on parle, le discours habituel, le discours scientifique, il a complètement laissé de côté la haine. Hein. Or, on est bien placé pour savoir tous que dès que deux êtres parlants, deux animaux parlants, ont quelques relations, très rapidement, arrive cette dimension de la haine. Alors, ça pose quand même la question de qu'est-ce que c'est que la haine. Et notamment, la question radicale qui est à poser, c'est est-ce que cet oubli dans la progression du savoir, hop, alors je fais une petite incise, là particulière, par exemple, toute la question du behaviorisme, toutes les techniques psycho-rééducatrices, psychothérapiques habituelles qui nous viennent n'importe où, au Canada ou autre chose, sont basées sur le behaviorisme, c'est-à-dire sur le fait qu'on sait exactement où il faut aller. Hein? Il y a une description, on sait où il faut aller. Il faut rendre quelqu'un comme ça. Et si on sait où il faut aller, c'est parce que quelque part, il y en a un qui sait. Donc, il n'y a plus de possibilité au moins de surprise, voire d'énigme du savoir, parce que le savoir, c'est une énigme. Bon, alors, ce que permet d'avancer la psychanalyse, ça démarre comme ça, la haine. Ça démarre, vous savez, la fameuse ambivalence. L'amour, la haine. Hein, vous trouvez ça très bien dans le... Notamment dans... Enfin, c'est comme ça que c'est dit. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. On faisait des humanités, là, quand on apprenait Corneille, Racine, tout ça. Hein, on parlait d'ambivalence, des choses comme ça. Et on sait que si on a été passionné par quelqu'un, si cette personne-là nous délaisse un peu, eh bien, rapidement, on va lui en vouloir. Alors, on pense que la haine... C'est défini comme quelque chose, eh bien, effectivement, on en veut parce que, ben parce que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. Déjà, on avance un peu. Alors, d'où le fait que, si on veut un peu préciser les choses, on ramène comment rapporter la haine à la question du savoir. Voilà. Alors, Lacan pose cette question-là dans le séminaire encore, les 13 et 20 mars 1973. Et il fait référence, bien sûr, à Freud, mais pas du tout en l'exaltant, pas du tout non plus en disant quelque chose de désagréable sur lui, mais simplement en disant que, en faisant référence au fait que Freud, parfois, se sert d'empédocle. Vous savez qui c'est empédocle ? Car empédocle, c'est celui qui se serait jeté dans l'Etna, et on aurait trouvé une sandale, ou ses sandales, en bordure de l'Etna, hein, on a des sandales d'empédocle, dans son ensemble, par exemple, c'est une nouvelle, hein, et ailleurs. Et Aristote, parce qu'on n'a quasiment rien d'empédocle, hein, on a 3-4 lignes, pratiquement rien. Et vous savez, Aristote, par contre, dont on a beaucoup de choses, semble transmettre qu'Empédocle, que pour Empédocle, Dieu ne pouvait pas connaître la haine. Voilà. Bon. Et bien, si Dieu ne peut pas connaître la haine, et bien, comment il peut connaître l'amour ? Voilà. Si on pense qu'il n'y a pas d'amour sans haine, comment Dieu peut connaître l'amour ? Ce qui est quand même à la base de tout le christianisme. Autrement dit, ça ne colle pas. On peut penser que ce n'est pas bête l'idée d'Empédocle. Hein. Ce n'est pas bête du tout. Hein. Alors, donc, un être parlant peut penser que Dieu ne connaît pas la haine. Et alors, s'il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas l'amour, donc il ne connaît pas grand-chose. Donc vous voyez que celui qui serait quelque part et qui sait tout, il est quand même sérieusement dépossédé du savoir. Simplement par ça. Et, alors si nous sommes fils du langage, c'est comme ça que Lacan termine le séminaire du 13 mars, il lui vient comme ça, là, on a parlé un certain nombre de choses avant, il dit, parce que toute la question du savoir, psychanalyse, dans le discours analytique, c'est quoi ? C'est ce qui se passe entre un homme et une femme. C'est ça le savoir. C'est pour ça que la dimension de l'amour est importante et que jusqu'à Freud, avec les philosophes, et ça continue avec les philosophes, il n'y a pas à leur reprocher parce que c'est leur champ, hein, écrivez champ comme vous voulez, eh bien, ce qui est en jeu, c'est la dimension de l'être. Être. Et ce passage de l'amour à la haine, ou de la haine à l'amour, eh bien, c'est le champ de l'être. Donc, en rester comme ça là, c'est en rester au niveau de l'être. Le discours analytique se soutient du fait qu'il y a un autre champ que le champ de l'être. Et donc, le savoir qui est en jeu n'est pas le savoir de l'être. Et pour bien marquer ça, Lacan, un jour, dans ce même séminaire, se met à conjuguer le paraître, je pars, suis, tu pars, es, il paraît, nous par sommes, vous paraît, ils par sont. C'est-à-dire que par être, c'est pas le P-A-R-A-I-T-R-E, c'est le para-être, être à côté. qui est important, c'est le para-être, être à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'être, hein. Mais ça veut dire qu'il y a des moments, les moments, on pourrait dire comme ça, rapidement, de désir, de vie, de quelque chose, c'est les moments où on est para, à côté de l'être. Alors, mais ça ne suffit pas, ce que j'énonce, ça ne suffit pas encore suffisamment, parce qu'évidemment, il faut aller un peu plus loin, et aller un peu plus loin avec le discours analytique, avec la dimension de l'inconscient, parce que dans tout ce que je viens de dire, je n'ai pas parlé d'inconscient. L'inconscient n'est pas du tout, dans la dimension de l'être, hein, sauf si on considère que l'inconscient, c'est du non-conscient. Bon, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Hein. Va se poser la question, ben justement, de cet autre lieu, où ça c'est. Alors, ça c'est. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument insaisissable. Voilà, la découverte du discours analytique, le nouveau savoir qui apparaît à la fin du 19e, début 20e, en regard du langage, c'est qu'il y a un savoir, et que ce savoir est singulier du fait que ça n'est pas un savoir de l'être, ou sur l'être, c'est un para, il est à côté, hein, et que chaque être parlant, chaque animal parlant, est à la fois du côté de l'être et du côté du para-être, du para-être, mais pas pea et raï, c'est pas le semblant au sens habituel du terme. L'être, c'est la dimension du semblant. C'est comme ça que Kant va présenter le semblant d'être. Quand nous croyons, nous, être dans le vrai, eh bien, on est dans le semblant. Alors là, on est des semblants d'hommes et des semblants de femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de discours, nous sommes des signifiants, rien de plus. Et on n'est pas grand-chose. Et pourtant, cette dimension même du signifiant, c'est ce qui peut permettre que quelque chose de nouveau advienne. Donc vous voyez que interroger la dimension du savoir, c'est interroger, on est obligé d'introduire quelques catégories lacaniennes, c'est-à-dire la dimension de ce que Lacan va appeler le vrai et le réel. Le réel, c'est ce qui nous échappe, on ne peut pas le saisir. Et puis le vrai, alors qu'est-ce que c'est que le vrai? Le vrai, ça nous fait déboucher sur la vérité. Hein. Le vrai, c'est quoi? Je dis vrai, hein, ça c'est se raconter ça. Hein. Le vrai, c'est qu'est-ce que la vérité, hein? Je vous rappelle, c'est la question qui est posée. Hein? Ça, c'est dans les, trouvez ça dans la passion. Quid est veritas? C'est la question qui est posée. Qu'est-ce que la vérité qui est écrite quelque part? Et en général, c'est ça, c'est la question d'Aristote. Et en général, on répond la vérité, la vérité, c'est simple, hein? C'est par exemple, si on reprend Aristote, ce que développe Aristote, c'est très simple. Vous considérez ce qui est dans la religion chrétienne et vous allez trouver Aristote. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de l'échelle l'être suprême, Dieu, et tous les autres, c'est-à-dire nous qui sommes au-dessus de l'échelle, nous sommes un peu moins parfaits que l'être suprême, et nous ne visons qu'une chose, c'est accéder à la perfection. Eh bien, cette dimension de perfection de l'être, que saint Thomas d'Aquin va réinjecter, notamment dans le christianisme, plus tard, mais il n'y aura pas de difficulté, puisque de toute façon, le christianisme, c'est ça. Hein. C'est que le fonctionnement de l'amour de Dieu, vise à ce que l'on puisse accéder à plus d'être. Ce qui est étrange, quand même, c'est que Robespierre, il avait fait quand même la culture de l'être suprême. Hein. On peut dire qu'il était, il pourrait dire qu'il était contre les curés, mais c'en est un vrai, hein, parce que pour sortir des mots pareils, on peut penser que c'est un vrai curé, hein, un vrai curé athée. Quoi. Bon. Alors, je reviens à, pour essayer de ne pas trop sortir de la ligne. Cette dimension, vous voyez, de la vérité, Ce que montre le discours analytique, hein, j'insiste bien sur la subversion, hein, ce discours, parce que ça ne se prouve pas. Ça peut être énoncé, comme je le fais, mais ça ne peut pas se démontrer. Puisque c'est au un par un que ça se joue. Hein. Une analyse, ça ne se fait pas en groupe. Hein. Ça se fait au un par un, dans une relation particulière, qui est toujours singulière, oui, du moins, n'importe qu'elle soit singulière, pour chaque animal parlant que nous sommes. Et donc, la vérité, ben, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au droit, ça nous amène à la justice. Ça nous amène au fait qu'il est demandé aux témoins de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et que derrière tout ça, ben, c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'il y en a qui sait. Il y en a qui sait. C'est-à-dire qu'on demande d'avouer la vérité qu'il sait, ou que quelqu'un d'autre sait, mais qu'il faut absolument qu'il dise, parce qu'il doit la savoir. Hein? Et autour de ça, il y a ce que Kant développe, à savoir un apologue, hein? À savoir que la question qui permet d'aborder Kant, mais qui nous intéresse tous, c'est que la dimension de la vérité, en fait, je disais que c'est un terme qui visait la dimension du droit, hein? Et bien, la preuve, c'est qu'il y a un autre terme qui est la dimension du droit, qui est la dimension de la jouissance. La jouissance, ce n'est pas la propriété. Hein? C'est autre chose. Et donc, la dimension de la jouissance, le discours analytique fait un virage dans le sens habituel de la jouissance, hein, c'est le cas de le dire, pour aborder autre chose. Eh bien, dans la prologue dont parle Kant, je ne vais pas le développer parce que ça prendrait un peu trop de temps. En gros, ce qui est défini, c'est que le tyran demande à l'homme libre, ça veut dire l'homme libre, de dénoncer le rival, et pour qu'il le dénonce, il lui promet toutes les jouissances. Voilà. Il aura tout. Condition qui... Ça fait penser à beaucoup de choses, ça. Hein. D'avant et même de maintenant. Hein. Il aura tout s'il dénonce le rival. Mais ce qu'oublie, effectivement, Kant, parce que c'est un philosophe, donc il ne faut pas lui demander de dire quelque chose qui est avancé par le discours analytique. Ce qu'il oublie complètement, c'est que, justement, on ne peut pas dire toute la vérité. Parce qu'il y a le réel. Il y a un rapport entre la vérité et le réel. Et puis ce qui meut, c'est ce qu'elle veut dire, le tyran, c'est quoi? Ben, c'est qu'il se rend bien compte que le rival, ben, il fait quoi? Pour lui. Le rival, là, c'est celui qui. C'est celui qui est pris de jouissance, justement. Donc ce qu'il veut, c'est qu'il veut anéantir le rival, parce qu'il pense qu'en anéantissant le rival, ben, il aura la jouissance. Voyant en quoi, il se trompe complètement, parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que le rival, c'est son image, tout simplement. Hein? Donc de toute façon, ben, des rivaux, il y en aura toujours. Bon, donc vous voyez que aborder la question du savoir, c'est aborder la question de la vérité, la jouissance, du réel, et du fait que quoi? Si on remet un peu tout ça ensemble, ce qui est attendu du témoin, d'une certaine manière, par le juge, on pourrait dire, c'est qu'il avoue quelque chose qui est inavouable. Parce que la jouissance, c'est inavouable. La jouissance dont on parle, c'est inavouable. Voilà. Donc le ressort même du discours analytique, c'est qu'il y aurait une vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a faute, c'est une autre interprétation du péché originel, évidemment, faute au sens de défaut, au sens de ce qu'il faut, il y a faute à l'endroit d'une certaine jouissance. Et c'est comme ça qu'on peut introduire la dimension du féminin. C'est-à-dire qu'habituellement, tout le discours de l'être, tout le discours comme ça qu'on peut arriver à penser, c'est ce qui résulte d'un certain type de fonctionnement de la pensée, avec cette confusion entre nous, entre celui qui est pris par la pensée et puis sa propre image qui est chez l'autre. Et tout le monde y passe par là. Hein. Freud est aussi passé par là. Au début, il a pensé, par exemple, que les perversions, c'était du côté du féminin. Ça, se rend compte qu'en fait, c'est l'homme qui, dans son rapport à l'acte sexuel, à l'endroit de la femme, met la femme dans une position où il ne peut être, lui, homme, que dans une position perverse, c'est-à-dire en position d'objet titre. Après, j'en ai rendu compte. Bon, à quel point on est tous pris là-dedans. Et on ne peut pas beaucoup décrocher de ça. Hein. Le discours de l'être, c'est quelque chose d'important. Et même si on dit que c'est un semblant d'être, on ne peut pas décrocher de ça. On est pris là-dedans. Et même après une analyse. La seule chose, c'est que l'analyse, elle va permettre d'ouvrir une porte là-dedans. Je crois, c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est-à-dire de ne pas rester enfermé dans ce semblant d'être. Pourquoi ? Parce que se pose, alors là on y arrive, la question du corps. Et on peut annoncer ça de façon, je dirais, très simple. Comment jouir d'un corps qui n'a plus d'habit ? Ça veut dire quoi ? Métaphore, c'est-à-dire, hein, c'est-à-dire que l'habillage habituel, c'est le semblant, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire de l'image titulaire, ce dont on se reconnaît, hein, c'est que quand on aime quelqu'un, en général, ben, on aime quoi, hein, on aime son accoutrement, on va dire. Hein. Ça peut d'ailleurs passer aussi par l'accoutrement réalisé. Hein. Mais on aime quelque chose, c'est pas une fait. On aime quelque chose, on aime sa silhouette, on aime quelque chose. On aime quelque chose qu'on peut saisir, on saisit même tellement qu'on dit c'est ma femme, c'est mon mari. On fout du possessif à tire la rigole. Hein. Justement, c'est bien ce qui n'est pas possible. Parce que justement, le problème de l'être, c'est que on ne peut que se l'approprier, l'être. Comme le tyran, tout à l'heure. Et ça peut être même tellement vrai que dès que quelqu'un sent qu'il risque d'être approprié, bon, il saute, puis il recommence, et puis il saute, puis il recommence. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de se sauver. C'est comment, un jour, on arrive à aérer un peu tout ça. Et vous voyez qu'on retombe sur la découverte de la psychanalyse, c'est-à-dire quoi, la sexualité. Mais pas au sens d'une histoire de foutre, hein, comme le pensait Breuer, par exemple. Il a reculé au moment où Freud a voulu lui dire ben, on va y aller tous les deux, quoi, parce que Breuer, c'était son maître à Freud. Hein. C'était très connu à Vienne. Il aurait bien aimé s'abriter. Hein. Mais, ouais, écoutez, ça, c'est l'histoire d'alcool. Moi, je ne vais pas du tout. Hein. J'ai quand même ma respectabilité. Hein. Un grand, grand généraliste de Vienne. Il ne pouvait pas dire n'importe quoi comme ça. Bon. Mais Freud aussi est parti de là. Je sais parce qu'il entendait ça. Il allait lui raconter des trucs là-dessus. Hein. Mais progressivement, il a pu prendre en compte la dimension, non pas des histoires qui étaient racontées, mais du langage. Et c'est tout le travail qu'il fait justement à la fin du 19e, début 20e, sur la science des rêves, sur le mode esprit, sur la psychopathologie de la vitalité quotidienne. Ça, c'est trois livres canoniques, comme on dit, canoniques, qui permettent de bien situer l'importance du langage, et non pas l'importance de la pensée. Et alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce savoir dans l'autre ? Grand A, le fait que ça sait. Mais ça sait du fait qu'il y a des signifiants. Et la dimension du signifiant, ça nous amène à la question du corps. On est complètement en dehors du savoir. Bah, on a pu l'apprendre dans nos études, le savoir, le corps, anatomie, physiologique. Hein. Puis qu'on voit, c'est pas de ce corps-là dont on parle, puisque s'il s'agit de jouir d'un corps, il s'agit de jouir du corps de l'autre. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Ou alors, il faut définir autrement l'amour. L'amour, ça tourne tout seul. Hein. L'amour, c'est... Il n'y a pas besoin de rien. Ça tourne tout seul, l'amour. Hein. La demande d'amour, la satisfaction est en avant, et ça continue. Et en veux-tu, en voilà. Le réel ne rentre pas là-dedans, l'amour. C'est pour ça que, finalement, après la haine, ça va tourner aussi pareil. Donc, on en arrive à ceci, qui est, comment est-il possible que ce qui ne cesse pas, j'ai déjà parlé de ça, cette nécessité, ce qui ne cesse pas, cette nécessité, ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce qui ne cesse pas de se raconter dans les histoires habituelles, parce que c'est toujours un peu pareil, finalement. Hein. Bon. Ce qui ne cesse pas peut cesser. Et si ce qui ne cesse pas cesse, alors quelque chose de nouveau va venir, c'est-à-dire quelque chose va cesser de ne pas s'écrire. Ce qu'on appelle la contingence, et là c'est la dimension du corps. Mais alors le corps, là, pour en parler, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nous amène à envisager le fait que il y a quelque chose en nous, évidemment, qui nous dépasse, et que ce quelque chose qui nous dépasse est lié au langage. Et que ce quelque chose qui nous dépasse, c'est la dimension du signifiant. Attention, la dimension du signifiant, à condition de ne pas prendre, comme on le fait habituellement, à partir de la linguistique, parce que la linguistique, c'est du discours scientifique, donc il ne faut pas lui demander de penser autrement, à condition de ne pas penser le signifiant comme un effet, au niveau uniquement de ses effets, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on peut penser. Par exemple, si l'exemple habituel dont parle Freud, c'est familionnaire, un mot d'esprit, ben, dès que j'ai mis familionnaire, je me mets les effets de signifier, c'est ça. Il y a le mot famille, il y a le mot millionnaire, la famille, ça renvoie à quoi? C'est ça qu'on nous demande de dire, hein, quand vous parlez. Mais c'est pas du tout parce que c'est pour qu'on tombe sur un os à un moment. C'est pas du tout pour qu'on comprenne. Hein. Parce que tant qu'on va comprendre, on va toujours être dans le circuit du signifié, c'est-à-dire un truc sans fin. La dimension de l'être, d'une certaine façon. Voilà, donc, il importe, en regard du discours scientifique, en regard de ce nouveau discours qui laisse le discours scientifique aller à sa vitesse, il n'est pas question de dire que les messages de l'ADN et de l'ARN, ça n'a pas de valeur. Ben, c'est des messages. Donc s'il y a des messages, c'est qu'il y en a un qui sait quelque part. Par définition, c'est au moins logique ça. Eh bien, il faut laisser ça aller, hein, c'est très bien. Hein, bon, voilà. Mais il ne faut pas passer son temps à dire que ce n'est pas bien, parce que si on passe son temps à dire que ce n'est pas bien, ben, ça veut dire qu'on est pris par ce discours-là et que par celui-là, on est dans l'être. Comment est-il possible d'accéder à autre chose et de ne pas être parasité par le fait que c'est bien ou pas bien, ça a de la valeur ou pas de valeur, hein. Je vous rappelle les débats qu'on pouvait avoir entre, par exemple, je ne sais pas qui, moi, j'allais dire une sorcière, c'est bien, mais comme ça. Quelqu'un qui prédit l'avenir, ou une malvoyante, et puis à côté, vous mettez un rationaliste, vous les mettez sur un plateau de télévision, et voilà. Ils vont se déchirer, et ils ont raison, chacun dans leur truc. La seule chose, c'est qu'ils sont tous les deux dans le même machin, sans s'en rendre compte. C'est effectivement, le signifiant peut nous faire des choses dont on n'a aucune idée. Et on pourrait presque dire que la télépathie, ça existe. Évidemment que ça existe. Et c'est pas ça qui nous intéresse. L'inconscient n'a rien à voir avec la télépathie. Ni avec la télé, quelle qu'elle soit. Donc, je reviens, puis je vais m'arrêter là-dessus. Il y a, ce qu'on appelle en philosophie, jugement d'existence. Il y a un savoir qui est recouvert par le discours habituel. Les discours habituels, qui sont tous des petits, des petits produits du discours scientifique, c'est-à-dire de l'observation, finalement. Un homme, c'est quand même pas pareil qu'une femme, bon, principe. Anatomique, ça c'est. On peut quand même pas le nier, hein, bon. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est. Il y a, en regard d'un savoir qui est mis en position de vérité, ce que Lacan appelle grand S petit 2, S2. Quand le savoir est en position de vérité, le discours analytique vise à produire un signifiant, c'est ça la nouveauté, et ça change tout, insignifiant qui a un rapport avec la vérité. La vérité telle que j'en ai parlé, pas la vérité de la justice et du juge, une vérité inavouable. Celle justement qu'il faut parce qu'il ne la faut pas. Celle qui peut se dire, peu s'en faut qu'elle ne faille. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je dis aussi bien qu'elle va tomber que, c'est-à-dire fallerait au sens de tomber, que fallerait au sens de falloir. C'est-à-dire quelque chose qui doit advenir. Donc c'est ça le langage. Il y a donc, au niveau même du signifiant, le signifiant ça ne renvoie pas un signe, ça renvoie ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient. Il y a donc, au niveau des signifiants, et la richesse elle est là, et la vie elle est là, et le bonheur il est là, hein, c'est pas la béatitude, hein, pas du tout. Bon. Il y a, chez chaque être parlant, possibilité qu'advienne cette dimension du jouir d'un corps qui est le corps de l'autre. Ça veut dire quoi? Autre grand A, c'est-à-dire ce corps de l'autre, c'est celui qui s'articule en regard de la dimension signifiante. C'est-à-dire que la dimension signifiante, c'est le fait que quand je parle, je m'arrête là-dessus, quand je parle en pure perte. Pure perte. Et la perte en question, qui est un gain, c'est celui de la jouissance dont j'ai parlé. Freud l'a découvert au niveau des processus primaires, il va appeler ça Lustgewinn. Le gain de jouissance, hein, le gain de plaisir en langue allemande, enfin, on va tirer cette côté de la jouissance, et c'est ce que Marx, avec tout ce qui va passer sa vie là-dedans, va, d'une façon ou d'une autre, ce qu'on va retenir de son enseignement, ce n'est pas les grandes explications, ça c'est discours scientifique, c'est très bien, mais ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est la grande découverte de Marx, c'est la dimension de ce en plus, qu'est cette dimension de la jouissance, et qui est liée au fait de parler. Finalement, la psychanalyse, ça vise à trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Voilà, mind là-dessus, aujourd'hui.